courage.
Comme quoi on est arrivé à des habitudes. Hein.
Amen.
Ce pupitre, je le trouve un peu gênant. Il fait tomber les feuilles ou même la Bible. Parce qu'il n'a pas d'arête sur le bras. Alors comme je le connais bien, je suis prudent, je prends. Mais je ne le fais pas qu'ici, hein, je vous avertis. Patrick et autres sont témoins. On a quelques habitudes, hein, parfois même en tant que prédicateur. Alors écoutez, je vais parler quand même quelque peu d'hier. C'est un temps que j'ai préparé dans la prière. Parce qu'un temps comme hier, c'était un temps particulier où il y avait pas mal de monde, personne, il y avait des inconvertis et beaucoup de convertis. Et prier pour ces instants-là, c'était important. Mais je ne suis pas le seul à avoir prié. Mais ce qui est édifiant, ce que j'ai trouvé vraiment excellent, je dirais même étonnant, c'est une onction qui, à un moment donné, s'est levée sur nous tous. Alors, il y a onction et onction. Il y a l'aspect de l'esprit, oui, mais il y a des aspects différents. Et à un moment donné, l'onction s'est réellement levée et il y avait une autorité de Dieu. Et cela, je l'ai vécu et ça m'a fait beaucoup de bien. Cela veut dire que d'une part, tout ce que vous avez fait sans mérite, mais avec tellement d'efforts, tellement de choix, de volonté et d'engagement, a été béni par Dieu.
Amen.
Toute cette préparation, faite avec minutie, était bénie par le Seigneur. Mais ce qui est majeur, c'est la bénédiction sur l'Église. Et c'est ce que j'ai retenu le plus. C'est que l'Église, le flambeau, est approuvée de Dieu. Pourquoi je dis cela? Alors vous savez, je fréquente l'Église depuis des années. Et j'ai beaucoup apprécié Edgar, puisqu'il présidait. Il a eu l'audace, devant tout le monde, devant des inconvertis. Les convertis, c'était moins gênant, mais j'ai trouvé l'audace de dire devant des inconvertis toute la vie de l'Église. L'expliquer avec de nombreux détails. Il n'a pas hésité à parler des grosses baisses de pression et de régime de cette vie d'Église, des crises de l'Église. Certains témoignages, d'ailleurs, attestaient de ces crises. Et ce qui est bon de relever, c'est qu'il avait une totale liberté pour le faire. Mais cette franchise, je l'ai beaucoup appréciée. Parce que, à la fois, il a su montrer combien l'Église est debout, propre, mais aussi combien l'Église est passée par des tribulations, et parfois des tribulations qui frôlaient le drame. Et je dois quand même souligner que Dieu à relever à chaque fois l'Église.
Amen.
Alors moi je bénis, c'est vrai, toute l'Église, Frida qui est à l'origine, qui est dans le démarrage, mais je bénis Hubert qui a connu aussi avec son épouse toutes les variations de cette Église, et combien il en a payé le prix, et il a gardé beaucoup de calme et de tranquillité devant les épreuves, je tiens à le dire. Et puis Eric s'est ajouté à l'Église avec une parenthèse, il est parti sur les hauteurs de Paris. Il est revenu. Je l'ai connu jeune et aujourd'hui dans un essor spirituel. C'est encourageant, vous savez. Je dois aussi dire, et alors c'est pas du tout des compliments pour des compliments, parce que je n'aime pas. Je ne complimente pas les personnes. Normalement, je ne fais pas quelque chose que je fais et je ne complimente pas. Je dis simplement ce qui est. par se complimenter, c'est tomber dans la flatterie. Et ça, c'est exclu. Edgar, tu as beaucoup changé. Tu me faisais souci par le passé. Tiens à dire. Tu me faisais beaucoup de soucis. Et aujourd'hui, je trouve que tu as gagné une stabilité et un essor spirituel. Waouh! Dieu a changé les choses. Ça, c'est au bénéfice. C'est au bénéfice de sa vie personnelle, mais c'est aussi au bénéfice de son couple et au bénéfice de l'Église. Merci Seigneur. Alors, je vous encourage. Alors, maman fidèle, alors bien sûr, invariable. Il y a un plat camerounais que j'aime beaucoup, c'est l'Ndolé. Mais je n'aurai pas droit en mon Ndolé aujourd'hui. Oui, je suis allé au Cameroun, et le Cameroun, c'est vrai qu'on mange vraiment très bon. En Côte d'Ivoire aussi. Mais il y a des plats qu'on se souvient plus que d'autres. Et maman Frida est toujours là pour faire plaisir. Ceci étant, je vous encourage à aller de l'avant. Alors c'est vrai que je vous ai beaucoup accompagné, je vous ai beaucoup soutenu, essentiellement Hubert. J'ai pris des périodes avec vous. J'ai pris un peu de recul. Bon, j'ai eu un problème de voiture, j'ai eu un accident de voiture en allant au culte un dimanche matin. On m'a embouti. On est rentré dedans, le monsieur qui était au volant ne faisait pas attention, mais ma voiture s'est trouvée immobilisée sérieusement avec pas mal de dégâts, donc j'étais sans voiture, donc je devais venir, mais j'ai pas pu venir. Et donc me voilà de nouveau. Mais ça m'a donné un recul par rapport à votre vie d'église, et en même temps aussi la réflexion, de savoir ce que je devais faire ou pas par rapport à vous. Parce que Hubert m'a sollicité, j'ose le dire, pour être souvent ici, régulièrement ici. Et ma réponse était un peu en pointillée, parce que je ne savais pas trop, il faut faire la volonté de Dieu. Quand une église commence à réellement prendre de l'essor, elle n'a plus besoin de certains soutiens. Et puis je ressens, alors non pas en tant que soutien, parce que d'une part, j'aime beaucoup votre église, quand je me retrouve ici, je me retrouve en Afrique. Et ça me fait du bien parce que j'y vais plus. Donc c'est des rappels, c'est des souvenirs. Mais aussi, alors bien sûr, avec ce que Hubert m'a dit, alors de tout cœur, je dis oui.
Amen.
Parce que je vous aime et puis je pense que nous avons à continuer la relation entre nous. Voilà, ceci étant, je veux partir de pensée, parce que l'heure a tourné, il est 12h15. On a commencé à l'heure africaine, avec un certain retard, et puis après on ne s'arrêtait plus dans la louange, alors excellente la louange. Si ça, on n'est pas réveillé dimanche matin avec une louange comme ça, on ne se réveille jamais. C'est s'élever vers Dieu. Hier, dans tout ce qui a été dit, il y a à la fois toutes les difficultés qui ont été assumées, mais aussi toute la grâce et les bénédictions qui ont été là. La preuve ce matin dans vos témoignages, mais c'est beau. Ah, Tony, c'est beau, je ne savais pas tout là. J'ai découvert certaines choses dans votre témoignage. J'ai découvert certaines choses également chez Patrick et autres. Patrick, je savais qu'il était de la maison pendant un temps. Ça, je savais. Mais c'est toujours bon d'écouter un témoignage parce qu'on découvre toujours quelque chose de plus. On va vers un plus. Et le frère, je te connaissais de vue, mon frère. Je t'ai déjà vu. Et c'était sûrement ici, je pense. Voilà, c'est ça. C'est s'élever vers Dieu. Alors, je vais porter deux pensées, mais très rapidement, compte tenu de l'heure. S'élever vers Dieu. Écoutez, il y a pour moi, alors j'ose parler librement, à côté, il y a des groupes musicaux. Et depuis hier, ça me dérange. Et tout à l'heure, je suis sorti, je suis allé en face. Hier, nous étions nombreux, donc là, ce matin, je suis sorti, puis Samuel m'a suivi, ou il m'a précédé, et lui aussi est sorti, ton fils. Et on a discuté. Je dis, il faut qu'il se convertisse. Il me dit oui. Je dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Il me dit oui. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond en face, spirituellement. Il faut prier. Vous, en tant qu'église, priez. Prenez autorité. Ce qui est mauvais de l'autre côté doit se tourner en bon. Conversion.
Amen.
Et ils sont performants au niveau musical, mais dans le mauvais sens, avec une mauvaise source. Ça, c'est clair. Donc, priez. À partir du psaume 120 jusqu'au psaume 134, il est parlé des cantiques des degrés. C'est la montée d'Israël. Et ce sont des cantiques. Ce sont des cantiques particuliers. Du psaume 120 au psaume 134, c'est une partie des psaumes qui est à part. À part parce qu'il y a toute une histoire. C'est l'histoire d'Israël à partir de l'exil de Babylone. Soit en 70 années de captivité, ils sont libérés. Dans Esdras, chapitre 1, le roi Cyrus, païen parfait, entend la voix de Dieu, mais par contre, il reconnaît bien la voix de Dieu comme celle de Dieu. Et Dieu lui dit, tu vas libérer les Israélites et tous ceux qui auront l'esprit éveillé pour qu'ils montent à Jérusalem pour bâtir une maison pour l'Éternel. Puis, cet homme, Cyrus, dit, je vais vous demander de monter pour bâtir une maison, ma maison, et pas le même mot possessif à un moment donné. Comme quoi il a été convaincu par Dieu. Et il a libéré Israël, bien entendu. Et c'est le pèlerinage, ensuite, cette montée donc, des Israélites à Jérusalem, alors qu'ils étaient en Babylonie, dans la captivité. Eh bien, c'est psaume 120 à psaume 134 indique réellement ce rythme, cette marche qui était très incertaine parce que les temps étaient insécurisés à l'époque. Courir dans ces zones, il y avait beaucoup d'insécurité physique. Mais ils chantaient. Ils chantaient. Et il faut savoir aussi que, par ailleurs, chaque année, les mâles en Israël étaient convoqués à Jérusalem. Ce n'était pas pratique, mais ils devaient monter à Jérusalem et bien se rendre gloire à l'Éternel. Alors bien sûr, ce n'était pas pratique, je le répète, mais dans leur montée, donc tous ceux qui étaient d'Israël, en Israël, montaient à Jérusalem pour rendre gloire à Dieu. C'est une convocation sainte. Mais il y a également tous les exilés d'Israël, les Juifs qui sont dans la diaspora, dans tous les pays de toute l'humanité, qui eux aussi doivent monter à Israël. On doit monter à Jérusalem. On dit, on monte à Jérusalem. Quand on quitte Jérusalem, on descend, même si on ne descend pas. Mais on monte à Jérusalem, même si on ne monte pas. Il n'y a pas de pente. Mais on monte à Jérusalem. Et on descend de Jérusalem quand on quitte Jérusalem. Ça veut dire que c'est un sommet spirituel, bien sûr, c'est un pivot spirituel. Et le mot hébreu Shir Hamahalot veut dire tout simplement plusieurs significations. Premièrement, une marche d'escalier. Tout à l'heure, tu as parlé de la marche d'escalier. Cette marche, il est dit dans Exode 20, tu ne monteras point à mon autel par des degrés, afin que ta nudité ne soit pas découverte, parce que les serviteurs de Dieu, les lévites, les sacrificateurs, étaient vêtus de robes, et s'ils montaient par des escaliers, on pouvait découvrir leur nudité. Donc, il y avait une pente simple, un plan incliné, comme pour les handicapés, alors d'aujourd'hui c'est nécessaire dans les bâtiments publics, afin que la nudité ne soit pas découverte. Mais il est parlé des degrés. Également, je vais rapidement, le roi Salomon, qui a été un roi avec un rayonnement mais exceptionnel, tant matériel que spirituel, pendant toute une période, il a mal terminé, certes, mais la salle du trône était majestueuse, énorme, grandiose, et le trône lui-même était incomparable. Toutes les nations d'alentour n'avaient pas un trône pareil. Ce trône était d'une richesse incroyable, incrusté d'or, d'ivoire, avec 6 degrés. Il y avait des accoudoirs, 2 accoudoirs, avec 2 lions de chaque côté, donc un à chaque accoudoir, Lion grandeur nature, c'était pas des sauts des lions en chair en os, mais c'était des statues. Et sur les 6 escaliers, de chaque côté, il y avait 6 lions. Donc ça faisait 12, 14 lions. C'est le signe de la royauté. C'est le signe de l'autorité du pouvoir. Et on a le lion de Juda qui est le signe de l'autorité du pouvoir à l'heure d'aujourd'hui. Et Salomon, quand il était sur son trône, il rayonnait parce qu'il était élevé au-dessus de tous. Il montrait son pouvoir, sa puissance et le rayonnement spirituel qui était le sien, au point que même on venait de très loin le voir. Et c'est un signe, c'est une image aussi de notre Dieu qui est élevé, qui est sur son trône et qui rayonne à l'heure d'aujourd'hui. Il est dans la majesté et nous nous élevons vers lui puisque s'élever vers Dieu, c'est une part personnelle. Une montée vers Dieu, mon cœur monte vers Dieu, c'est ce que nous avons fait ce matin, mais le Seigneur fait sa part. Il est dans nos cœurs, mais il descend aussi sur nous.
Amen.
Nous allons raconter aussi l'histoire d'Ézéchias, sa maladie, sa mort prédite, je passe très vite, et puis sur la supplication d'Ézéchias, en pleurs, en larmes, complètement défait. Dieu dit, bon, je vais lui donner 15 ans de plus. C'est quand même bien. 15 années supplémentaires. Oui, mais Ézéchias avait besoin d'un signe. Vous savez, les degrés de la case et que l'ombre a reculé de 10 degrés sur les degrés de la case. Alors, les degrés de la case, c'est simplement, c'est tout simplement un cadran solaire. Un cadran solaire qui était fait d'ailleurs par les Babyloniens, qui n'avaient rien du tout d'Israélite. Mais je passe sur le détail. Reculer de 10 degrés, de 10 escaliers, c'est reculer de 10 heures. L'ombre, alors certaines versions disent que c'est le soleil qui a reculé. Moi, je ne crois pas que le soleil a reculé. Non, Dieu n'a pas besoin de faire reculer le soleil. L'ombre, par contre, oui, du soleil. Alors que le soleil a tombé sur l'est et que l'ombre tombait sur l'est des degrés de la case, et que l'ombre s'étalait sur tous les escaliers, cette ombre s'est mise à reculer de 10 escaliers. Elle est revenue à midi. C'est un miracle, c'est clair. C'est un miracle. Il avait besoin de cela. Degrés de la case, c'était une bénédiction pour les Ézéchias. C'est quelque chose qui était nécessaire. Et puis deuxième image, l'étage. On parle d'étage. Quantité de degrés, étage, mansarde, galta, étage supérieur. L'étage supérieur dans le ciel, c'est l'endroit où Dieu a bâti sa demeure, c'est dans le troisième ciel. Et là, il y a l'idée aussi de s'élever vers Dieu, parce que Dieu trône, il est dans sa demeure, que nous rejoindrons tôt ou tard. Amen. Mais vous savez, je réfléchis à ce genre de choses. Parce que je suis en train de faire une étude, alors vous allez dire que c'est un peu sinistre, la maladie, l'agonie et la mort. Drôle d'étude, hein ? J'y ai passé plus de 20 heures. J'ai fait énormément de sépultures dans mon ministère, mais j'avoue franchement que là, j'ai été quelque peu bousculé. Parce que c'est pas une sépulture, c'est une étude. Je suis en face de moi. Alors, est-ce que j'ai peur de la mort ? Non. Pas peur de la mort. Mais partir dans de bonnes conditions ? Oui. Amen. C'est important. C'est un serviteur de Dieu qui est décédé il y a peu près un an. Il avait mon âge. Il avait mon âge. C'est-à-dire qu'il avait 68 ans. Il est décédé et il avait dit : je ne passerai pas le cap des 70 ans, je l'ai demandé à Dieu. Je veux partir dans les meilleures conditions qui soient. Cela m'avait un peu choqué sur l'instant, mais Dieu l'a exaucé. Il est parti à 68 ans, en beauté. Il se couche, il ne se réveille pas. Vous voyez qui c'est ? C'est André, oui. C'est André. Et il a dit, je préfère partir dans des très bonnes conditions, plutôt qu'éventuellement de me retrouver. Alors, je n'avais pas trop compris. Mais aujourd'hui, avec toute cette réflexion, je me dis quand même, Ézéchias, 15 ans de plus, il a eu quelques problèmes dans ces 15 années. Il aurait peut-être mieux fait de partir avant, non? Parce que sa marche ensuite était plus que discutable sur certains aspects dans le Seigneur. Je passe. Je ne vais pas vous mettre le bourdon. C'est pas le but. Ça va?
Amen.
Mais le peuple de Dieu est appelé à souffrir parce que nous sommes des témoins. La joie, la paix, le repos, oui. Souffrir parce que nous sommes des témoins, oui. Si je pêche, je souffre, oui. Je fais demi-tour. Je demande pardon à mon Seigneur et je me repens. Et Israël a été châtié parce qu'ils ont péché. Ils se sont retrouvés dans l'exil par un jugement de Dieu, une sanction terrible, 70 années de captivité, et ils n'en ressortent pas indemnes. Pas croire. Et ensuite, quand on passe du psaume 120 au psaume 134, on se rend compte, le psaume 120, parce qu'ils sont groupés par trois ces psaumes. Les trois premiers psaumes sont à la base, sont au plancher, sont au point zéro. On recommence tout. Et ensuite, on monte. On redescend. On remonte. On redescend. Et puis on monte et on atteint le sommet. Parce qu'à chaque fois que je descends, je ne perds pas mes acquis spirituels de la montée d'avant. Dans la descente, j'apprends. Alors vous avez des hauts et des bas, frères et sœurs. Les églises connaissent des hauts et des bas. Oui, mais dans les descentes, j'apprends. Et ensuite, il y a la montée, il y a l'acquis. Et à un moment donné, la dernière montée, les trois derniers chapitres, 132, 133 et 134, ils atteignent le sommet spirituel, c'est-à-dire pour moi, c'est le sanctuaire de Dieu, la présence de Dieu dans toute sa plénitude et son explosion spirituelle. C'est ce qui va arriver ici. Ça, j'en suis persuadé. Maintenant, j'en suis persuadé. Je n'ai pas toujours été partant. J'ai eu des moments de doute. Là, oui, je suis persuadé. Que le Seigneur vous bénisse richement. Mais vous savez, je sais qu'il y a des besoins au milieu de nous. Je prendrai que le psaume 120, compte tenu du fait que c'est midi. Puis je voudrais parler du Seigneur quelques instants. Dans ma détresse, c'est à l'Éternel que je crie et m'exauce. Dans ma détresse. C'est un psaume à la fois de repentance, de demi-tour. Je suis libéré. L'exil s'est terminé. Cyrus a libéré le peuple. Ils sont en train de marcher. Mais dans ma détresse, c'est à l'Éternel que je crie, il m'exauce. Pourquoi? Parce qu'il y a toutes les souffrances de la captivité. Il y a peut-être des souffrances que vous avez en raison de captivité qui viennent du passé, avant ma conversion. Ils sont encore peut-être en gestation avec un brûlot. Je suis sauvé, je appartiens à Jésus-Christ, il n'y a pas de souci. Je suis propriété du Christ vivant. Mais parfois, il y a encore des problèmes à régler. Et puis, dans la marche chrétienne, parfois, il y a des problèmes qui surgissent. Des blessures qui sont occasionnées. Et qui ont besoin de guérison. Et alors, dans ma détresse encore, quand j'ai un désert spirituel devant moi, alors que je suis chrétien depuis des années, que je marche avec mon Dieu, Dieu répond dans le désert.
Amen.
Honnêtement, Dieu, alors que j'étais dans un désert, Hubert l'a connu, parce qu'il me connaît depuis des années, et il m'a connu dans ce temps-là. Et d'ailleurs, je ne m'en cachais pas. Un jour, on m'a fait le reproche de trop dire les choses. Et j'ai dit à la personne, ça veut dire que toi, tu n'en dis pas assez. Il faut être vrai. Soyons vrais, s'il vous plaît. C'est le meilleur, à mon avis. Et dans ce temps de détresse que j'ai connu, de désert, une fois, Dieu m'a parlé par un frère, par une prédication que j'avais donnée, deux psaumes. Le psaume 37 et le psaume 73. 37, vous inversez 7-3. Facile à retenir. Ils ont le même thème. Et j'avais pris ces deux psaumes pour les conjuguer spirituellement dans une prédication. Et le frère, le matin, vient, il me trouve, il me dit, je te donne le psaume 37 de la part de Dieu. Je dis merci. Alors, bien sûr, ça m'a parlé, évidemment, oui, quand même, parce que... Oui, je connaissais bien ce psaume 37. Et je suis tout à fait... J'ai compris tout de suite ce que Dieu voulait me dire. Le soir, c'est moi qui vais le voir, il me dit, je te donne le psaume 73. Mais il n'avait jamais entendu la prédication. Quand je l'avais donné, il n'était pas à l'église de Saint-Laurent du Pont. Il n'avait jamais entendu. Et je ne l'ai donné que deux fois dans ma vie de pasteur, cette prédication. Alors là, ça quadrille votre vie. Vous savez que Dieu vous a parlé. Matin, soir, deux psaumes que vous avez prêchés, qui nous ont marqués, Dieu a parlé. Mais l'autre fois, quelques temps plus tard, Dieu m'a parlé de manière audible. Quand, je vous dis une faiblesse, hein, parfois j'ai des moments d'insécurité, ça vous arrive jamais ? Ben moi, écoutez, franchement, j'ai vécu des moments d'insécurité. Et tout en étant au ministère, hein, vous allez dire en ministère, dans la sécurité, mais oui, bien sûr, et oui. Et même avec des années de marche déjà dans le ministère. J'ai vécu une insécurité, et l'insécurité provoque de l'angoisse. L'insécurité provoque de l'incrédulité. C'est ça le problème. C'est que ça se brouille, on ne sait plus trop où on en est. Hein. Et je m'adresse à ma femme un matin, elle me dit, je peux rien pour toi. Hein. Si, prier pour toi. Il m'a dit, mais je peux rien. Elle était dans le même bain que moi, mais elle n'est pas insécurisée. C'est moi l'insécurité, non, qui vivais l'insécurité. Elle m'a dit, écoute, mets-toi devant Dieu. Alors, c'est ce que j'ai fait. Parfois, j'écoute bien ma femme. Je ne l'ai pas relevé, j'ai dit parfois. Non, souvent. J'écoute souvent ma femme. Parfois, en deux phrases, elle me dit des choses, parfois ça passe ici, parfois ça descend là. Ça vous arrive pas dans une vie de couple. Donc, je me suis placé devant Dieu et Dieu m'a parlé de manière audible. Et la voix du Saint-Esprit s'est levée en moi ici, je l'ai entendue de mes oreilles. Eh bien, il m'a parlé sur la raison de mon angoisse, que je n'avais pas à m'angoisser du tout. Que tout était pris en charge par Dieu. Et l'angoisse n'est pas pris d'un seul coup. Et la sécurité est venue. Et Dieu a honoré sa parole. Je sais qu'il continuera de l'honorer parce que cette promesse qu'il m'a faite n'était pas que pour un jour. Ça va ? Éternel, délivre mon âme de la lèvre mensongère, de la langue trompeuse. Il y a une version qui dit Éternel, arrache mon âme de la lèvre mensongère. Vous savez, le monde aujourd'hui est mensonger au possible. Manipulatoire. Dans la manipulation, le mensonge, on baigne là-dedans parce qu'on est dans le monde. À nous d'être vrais. À nous de ne pas mentir. Même pas un mensonge de complaisance. Surtout pas. Parce que là, c'est vraiment la pente savonneuse. Mais Éternel, arrache mon âme de la lèvre mensongère. C'est-à-dire qu'il y a un pouvoir au niveau du mensonge. Comprenez bien, frères et sœurs. Il y a un pouvoir diabolique, satanique. Et ce pouvoir, eh bien, il faut s'en dégager. Il faut qu'il soit arraché de notre âme. Alors nous avons tout ce qu'il faut. Hein. Jésus nous libère. Je parle pas de délivrance d'un démon à chasser. Non, pas du tout. C'est une capacité du mensonge dans notre vie intérieure qui est là aussi, nous trompe, nous dupe, nous triche, nous écarte de Dieu, nous éloigne de Dieu. Et puis, je lis aussi que te donne, que te rapporte une langue trompeuse. Point d'interrogation, bien du tout, quoi. Une parenthèse, bien du tout. Les traits aigus du guerrier avec les charbons ardents du genêt. Les traits aigus du guerrier. Le genêt, c'est un bois qui est dur, on ne le pense jamais, mais c'est un bois qui est dur. À l'époque, on faisait des flèches avec le genêt. Et puis, au bout des flèches, on enflammait. Et avec l'arc, on tirait sur le but ennemi pour tout embraser, mettre le feu. Et Je pense que les traits aigus du guerrier nous avons pas à les craindre. Nous avons le bouclier. Nous avons une protection de Dieu. J'aime dire, et je le répète, il y avait des jeunes convertis qui ont témoigné. Les jeunes convertis sont protégés de Dieu à 100%. C'est une couverture complète de Dieu. Quand je grandis dans la maturité, quand je deviens un homme, une homme et une femme mûre, mais merci, hein, de grandir spirituellement. Ça fait plaisir d'entendre, hein. J'étais un bébé, j'étais au lait pur de la parole de Dieu, puis alors maintenant, j'ai autre chose. Je suis vraiment dans une autre dimension. Mais les traits aigus du guerrier avec ses flèches ne peuvent pas m'atteindre. Les traits enflammés du malin, ces flèches ne peuvent pas m'atteindre. Parce que pour le nouveau converti, il est protégé à 100% par Dieu lui-même. Et puis ensuite, moi-même, j'ai appris à me protéger. Protégeons l'Église. Protégeons tous ceux que nous côtoyons qui ne connaissent pas Dieu. Amen. Par la prière, et couvrons-les.
Amen.
Amen. Avec les charbons ardents du genêt. La racine du genêt, quand elle brûle, dans la combustion, on en fait du charbon de bois. Le charbon de bois, vous savez très bien que c'est utile. Alors, pas pour, je ne parle pas de barbecue, hein, du tout. Mais le charbon de bois, dès qu'on l'enflamme, ensuite, alors bien entendu, la chaleur et le feu restent pendant toute une période. Et donc, c'est très aigu. Eh bien, ne peuvent pas m'atteindre. Satan me veut du mal, il est méchant, ça c'est certes vrai, il nous veut du mal, mais il ne peut pas nous atteindre.
Amen. Amen.
Il y a un rayonnement spirituel en face. Je le souligne. Ma sœur mère tout à l'heure, elle me disait, c'est tout à fait ça. Il y a un rayonnement spirituel. Ça ne peut pas toucher l'Église. Mais prenez position pour que ça recule. Prenez position pour que leurs cœurs soient changés. Qu'ils se convertissent tous.
Amen.
Vous êtes bien placés pour ça. Amen. Ensuite, malheureux que je suis de séjourner à Méchec, je reprends et je termine d'habiter parmi les tentes de Kedar. Ça parle de toute la géographie mondiale. C'est réellement la dispersion pour Israël. Mais vous savez que nous pouvons être dispersés dans le peuple de Dieu quand j'entends un peu l'histoire de certaines églises. Les uns ont quitté, sont partis de droite et de gauche. Il y en a qui sont dans le décor, qui n'ont plus de vie d'église. On dit qu'aujourd'hui, la moitié des chrétiens n'ont plus de vie d'église. Au choc. Vous êtes au courant?
Oui.
La moitié des chrétiens n'ont plus de vie d'église. Mais bon, pour moi, ils doivent rentrer dans le bergerie. À nouveau. Pour moi, je ne cède pas. Parce que dans les derniers temps, la sécurité, ça va être la bergerie.
Amen.
Dieu vient chercher le corps. Alors ils font partie du corps de Christ. Je ne dis pas qu'ils sont perdus. Certains peuvent se perdre. Je ne dis pas qu'ils ne marchent pas avec Jésus. Mais à un moment donné, ils sont voilés. J'ai vu une sœur me parler à la fois de la Bible et avoir... Oh, excusez-moi, mais un truc du Vatican à côté d'elle. J'ai dit, mais qu'est-ce que ça fait? Je dis, t'as jamais été pour ce genre de choses. Ah, mais c'est bien ce qui est bon. Très, très bien. J'ai dit, mais c'est pas bon. Mais elle n'a plus de vie d'église depuis une dizaine d'années. Pas facile, à partir de ce moment-là. Assez longtemps, mon âme a demeuré auprès de ceux qui haïssent la paix. Je suis pour la paix. Ça, c'est Israël. Vous savez, Israël est pour la paix. Ils sont persécutés. Aujourd'hui, c'est vrai que l'image qu'ils ont donnée ces derniers temps, que toutes les attaques par rapport à la Palestine, il faut le dire, les Palestiniens, c'est pas facile à vivre. On n'est pas d'accord, là, hein. Quand des enfants meurent, quand des civils meurent, on ne peut pas être d'accord. Alors, si vous êtes d'accord, il y a quelque chose qui ne va pas. On ne peut pas être en accord. Mais on est pour Israël. Parce que de toute façon, s'ils font un pas dans la diplomatie en reculant, immédiatement le terrorisme se remet en route. Ils sont coincés, ils sont dans un étau. Et on est dans les derniers moments. L'étau est en train de se resserrer sur eux. C'est un signe aussi du retour de Jésus-Christ. Mais dès que je parle, ils sont pour la guerre. Alors tous ceux du monde, vous savez, ne leur faites pas confiance. On peut avoir des relations d'amitié avec des gens inconvertis. Mais attention, ils sont inconvertis. On peut avoir des relations d'amitié avec les frères et les sœurs, et là par contre, c'est à développer. J'ai beaucoup aimé la formule apportée par Edgar hier. Je m'en souviens plus d'ailleurs. Désolé. Dis-la, répète-la.
De la défiance à la méfiance, de la méfiance à la confiance et de la confiance à l'alliance.
Ah, c'est beau, hein? C'est élégant, hein? C'est juste. C'est juste. C'est un défi quand même. C'est un défi. Mes frères et sœurs, travaillons pour cela. Jésus a connu Gethsémané. Simplement cette image, et je termine parce que c'est midi 10. Oh, je sais, je termine aussi à l'heure africaine. Hein. Dans certaines églises, midi, c'est midi. Dans le jardin de Gethsémané, c'est le jardin des oliviers, il y avait un pressoir à huile. Dans tous les jardins d'oliviers, à l'époque, il y avait un pressoir à huile, c'est-à-dire qu'il y avait deux pierres. Une pierre horizontale et une pierre verticale. Et la pierre horizontale était creusée avec des rainures. C'est-à-dire qu'elle avait été travaillée. On partait du centre, les rainures donc devenaient de plus en plus larges. Et à un moment donné, ces rainures, elles aboutissaient à une amphore. Et la pierre verticale, elle n'avait pas de rainures. Et on mettait les olives sur la table horizontale. Et puis, on actionnait un levier. La main, et la pierre verticale tombait, une pierre assez énorme, importante, et la masse des olives était écrasée, l'huile extirpée, cette huile coulait dans les rigoles de la pierre horizontale et venait rejoindre l'amphore et remplissait l'amphore. Il y a une image qui a marqué ma vie. Je la porte en tant qu'enseignant dans un mouvement spirituel. Parce que c'est quelque chose d'important. Moïse a reçu les 10 commandements sur 2 tables de pierre. Une table comportait les devoirs de l'homme envers Dieu, 4. Et ensuite, l'autre table comportait les devoirs de l'homme envers l'homme. Et vous le savez cela. Oui. Oui, vous savez très bien qu'il a reçu quand même les 10 commandements sur des tables de pierre avec le doigt de Dieu qui a inscrit les commandements. Oui. Oui, amen, hein, vous êtes au courant. Sinon, on prend les textes. Hein. Non, pas besoin. D'accord, parce qu'on retourne. Ces 2 tables de pierre. Au jardin de Gethsémané, Jésus a connu une lutte incroyable. Non pas ma volonté, mais pas ma volonté, mais à 3 fois. Ce n'était pas de l'incrédulité, c'était une lutte intérieure. Il était homme, il n'était plus Dieu à cet instant-là. C'était simplement un homme avec sa propre volonté humaine, comme la nôtre, pas plus ni moins.
Amen.
Et oui, c'est là justement le côté spectaculaire et merveilleux et miraculeux. C'est qu'il a décidé simplement comme homme, dépouillé de sa déité, dépouillé de ce qu'il était divin, il a décidé d'aller à la croix. Il a eu une lutte. Vous avez des luttes parfois pour décider quelque chose, c'est pas d'incrédulité, c'est pas du péché, c'est normal. Le choix parfois est difficile. Et son choix était difficile parce qu'en même temps, il savait tout le cursus, il connaissait toute la planification de ce qui allait suivre, toutes les souffrances qu'il allait endurer. Il savait la finalité, c'est la crucifixion, il savait tout. Il fallait qu'il dise oui à tout. Cette coupe amère lui était donnée par la main du Père. Et à jardin de Gethsémané, dans cette lutte, il a dit, non pas ma volonté, mais la tienne. Il a décidé. Mais c'est à ce moment-là qu'il a connu cette tristesse profonde de son âme, des angoisses terribles, c'est ce qu'il dit dans la parole de Dieu. Il s'est retrouvé réellement dans une souffrance terrible. Et puis, il s'est placé lui-même sur le pressoir à huile, sur la table horizontale. C'est plus des olives, c'était le Jésus, homme, fils de Dieu parfaitement accompli, qui avait accompli la loi, et qui se mettait lui-même sur la table horizontale pour être sacrifié à Gethsémané. La table verticale qui représentait les devoirs de l'homme envers Dieu est venue rencontrer la table horizontale des devoirs de l'homme envers l'homme,
Jésus était entre les deux. Il a sué des grumeaux de sang tellement la tension était grave. Et finalement, ces deux tables de pierre qui sont tombées sur lui, qui se sont refermées sur lui, ont été scellées par ces grumeaux de sang, par le sang qui a coulé puisqu'il tombait même à terre. Ce qui veut dire que la loi aujourd'hui est complètement accomplie. Que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas accomplir la loi. Et Jésus a tout accompli. Le jugement de la loi ne peut plus nous atteindre. Puisque Jésus a tout accompli. Et il a été frappé du jugement de Dieu. À ce moment-là, au jardin de Gethsémané, il y a eu mort intérieure. Il a été crucifié intérieurement. C'est sa vie intérieure qui a été crucifiée. C'est le prélude à la crucifixion physique. Mais, une fois crucifié intérieurement, ayant laissé exprimer toute l'huile de sa vie et de son engagement, alors, il a gagné la paix, le repos. Il est dit dans la parole qu'il est allé vers ses disciples. Il les a réveillés. Il était en toute tranquillité. Il dit maintenant, c'est l'heure. Levez-vous. Frères et sœurs, un ange est venu le fortifier suite à cette décision. Parce qu'il fallait qu'il termine sa course. Crucifié intérieurement, il l'était. Mort à lui-même, ce qu'Adam avait apporté au travers du péché, c'est-à-dire faire entrer la mort dans l'humanité, en tant qu'homme, Jésus en tant qu'homme, est venu apporter la vie dans ce monde. Amen. Il a renversé la situation. Amen. Il a battu en brèche tout ce que Adam a pu apporter comme destruction. Jésus est venu pour restaurer, bâtir. Amen. Et alors, fortifié par cet ange, ensuite, il est allé à la croix avec une tranquillité intérieure en sachant qu'il allait être supplicié, insulté, qu'il allait connaître une torture intolérable et surtout d'être fait pécher comme il l'a été. Lui, sans tâche, sans défaut pour chacun d'entre nous. Donc, soyons-lui surtout reconnaissants. Cette église est non. Parce que Jésus a payé le prix. Amen. Pour que cette église soit debout.
Amen.
Amen. Vous êtes debout parce que Jésus a payé le prix pour que vous soyez debout.
Amen.
La même chose pour moi. Mais, frères et sœurs, allons de l'avant. Mettons en relief tout ce que Jésus a fait pour nous comme sacrifice, pour payer. Et combien aujourd'hui il est toute grâce. Parce qu'il a été traité selon nos péchés. Mais nous, nous ne sommes pas traités selon nos péchés. Il a été, lui, traité selon nos péchés. Il a connu le jugement de Dieu, la colère de Dieu. Et nous, nous connaissons par différence l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs à cause de cela. Quand même inestimable. Hier, quand j'ai dit que tu chantais bien, c'est vrai que tu chantes bien. Mais ce que j'ai aimé le plus, c'est pas que tu chantes bien, c'est ton témoignage. Mais chante bien, continue. Développe le chant. C'est important. En début de conversion, aimer le Seigneur. Mais c'est vrai que quand on marche avec Dieu, il y a toujours la surprise d'avoir un conjoint tôt ou tard pour les célibataires. Preuve est donnée, hein. J'aime ça, moi. Cette providence divine. Une réunionnaise qui épouse un Africain, par exemple. Ça, c'est l'amour de Dieu. Un Ivoirien qui épouse une Française. Ça, c'est l'amour de Dieu. Mais deux Ivoiriens qui se connaissent également en Côte d'Ivoire et qui s'épousent à la même église. Ça aussi, c'est l'amour de Dieu. Moi, mon épouse, je l'ai trouvée dans notre église. Ça aussi, c'est l'amour de Dieu. Soyez bénis. Richement bénis. Vous avez des problèmes de couple parfois? Oui, c'est arrivé. Le parcours n'est pas parfait. Mais quand on est voulu de Dieu, quand on est choisi par Dieu dans une vie de couple, ça tient. C'est costaud. C'est du solide. Nous sommes conjugués intérieurement. Parce que c'est Dieu qui nous a choisis tous les deux pour qu'on soit époux, épouse. Il y a une conjugaison donnée par Dieu. Et il y a le ciment de Dieu. Alors soyez encouragés. Aimez-vous. Amen.
Soyez bénis. Amen. Ce chant. Nous ne pouvons pas nous séparer.